Bonjour auditrices, auditeurs, artistes et tous ceux qui nous écoutent, c'est l'Actuali sur les ondes du 107. C'est une première pour moi aujourd'hui puisque ce n'est pas l'artiste qui se déplace dans nos studios mais moi qui me déplace à l'atelier, devrais-je plutôt dire à la plomberie d'Épinal. Et en fait non, on est accueillis gentiment par la lune en parachute d'Épinal. On y rencontre l'artiste prénommé Chaka qui inaugure le 42e mur. Comment ça va Chaka ?
Eh bien, ça va très bien.
Je suis ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Le Mur d'Épinal, qui est une association qui permet au grand public, en l'occurrence ici aux Spinaliens, de découvrir l'art urbain plus communément appelé le street art. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux mur que les habitants connaissent et se voient transformer au gré des artistes. Cette fois, comme je viens de le dire, c'est Chaka qui est convié. Avant de vraiment rentrer dans la réalisation concrète de ce que tu vas y créer, apprenons un petit peu plus à te connaître. Ton nom artiste, c'est Chaka, mais tu t'appelles en réalité Marshall Mitoir. Alors, comment tu préfères que je t'appelle durant cette interview ?
Bah, Chaka, c'est en gros un diminutif, donc tu peux, c'est plus court, c'est plus concis. C'est le nom d'emprunt que j'ai pris quand j'avais 17 ans et qui ne m'a jamais quitté. Aujourd'hui, c'est comme un, c'est mon logotype, ça sert à signer mes toiles. Mais effectivement, Marshall Mitoir, j'ai repris mon prénom et mon nom parce que j'expose en galerie ou en musée. Et Chaka, c'est le logotype que j'utilisais pour la rue. Et je me suis fait connaître comme ça. Donc, ça reste associé. Les deux sont associés. Donc, tu m'appelles comme tu veux. Ça peut être Chaka, ça peut être Marshall. J'ai pas de problème avec ça.
Ok, bah alors ce sera Chaka. J'ai prévu ma trame là-dessus. Comment est-ce que tu as rencontré l'art ?
En fait, moi, je suis pas issu d'une famille d'artistes particulièrement. Mes parents, mon père était pharmacien, ma mère nous a élevés à la maison. Alors elle, petite particularité, elle aurait aimé faire le lycée Estienne à Paris, qui est un lycée qui forme aux arts visuels. Et elle a passé le concours, mais curieusement, en fait, on lui a dit que les filles n'étaient pas admises à l'époque. C'était dans les années 60. Et donc, on lui a laissé passer le concours pour lui dire que, en fait, c'était une école où vous prenez que des garçons. Je sais pas, très curieux. Bref, elle a été embauchée dans les laboratoires. Et voilà, elle avait une petite fibre artistique qui tient de mon grand-père, qui était peintre amateur. Et moi, très gamin, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai récupéré un peu les tubes de peinture. C'est un peu l'histoire, en fait, de mon grand-père. Il faisait de la peinture à l'huile. Mais je ne sais pas si c'est ça qui a généré ma passion pour l'art. Mais en tout cas, j'ai voulu faire, dans un premier temps, des cours d'art plastique, petit. Donc, aller faire explorer. On fait tous du dessin quand on est petit, à l'école, à la maternelle. Et moi, dès l'école primaire, j'ai voulu approfondir le truc et prendre des cours de peinture parce que c'est vraiment un truc qui me passionnait. Et après, bon, il y a eu des rencontres avec des confrontations d'artistes, des choses comme ça, parce qu'on creuse, on va au musée. Voilà. Mais je n'ai pas une famille d'artistes de base, on n'allait pas au musée tous les week-ends, mais ma mère, qui s'intéressait un petit peu à l'art, m'a toujours poussé là-dedans. Ce qui fait que j'ai jamais eu de frein, en tout cas, à créer, à devenir ce que je voulais être depuis tout petit.
Tu t'es perfectionné, entre autres, au fil du temps dans l'art urbain. Pourquoi ?
Alors, il n'y a pas de raison particulière, on va dire, qu'à l'âge de 17-18 ans, on a plus envie de sortir avec les copains dans la rue que de s'enfermer dans un atelier. Je pratiquais déjà, en fait, tous les mercredis, j'y passais l'après-midi, parce qu'en fait, j'étais aux ateliers d'art plastique d'Evry, c'est eux qui m'ont formé à la base. Et puis le directeur m'aimait bien, donc j'y passais l'après-midi. J'avais un cours de 2 heures, mais j'y passais la journée ou l'après-midi. Il n'y a pas de problème, même lui, il me prenait sous son épaule et il m'a même donné des conseils pour passer les examens, voilà, les concours d'entrée, les Beaux-Arts de Paris, la Sorbonne, des choses comme ça. Donc, je suis entré à la Sorbonne après, mais voilà, 17 ans, la culture hip-hop que je prends de plein fouet. Moi, j'étais plutôt issu d'une culture post-punk, rock alternatif, des choses comme ça. C'était ma base musicale, voilà, le reggae, le ska, le rock, le punk. Et le hip-hop est arrivé en banlieue, et c'est vrai que c'était un gros raz-de-marée. Et donc, ça m'a mis un pied dans le graffiti, parce que les premières fois, je prenais le RER pour aller à Paris. Je voyais déjà des gars qui avaient déjà pris des bombes et qui faisaient déjà des blocs ou des graffitis. Et donc, ça m'a pas mal interloqué. Moi, qui étais déjà un petit peu artiste dans l'âme, enfin, en tout cas, avait une fibre artistique, c'est un truc qui m'a parlé. Et surtout, avec les copains. Alors, au départ, j'étais tout seul. Dans mes potes d'enfance, pas beaucoup de mecs motivés pour faire du graffiti avec moi, là, et courir le long des autoroutes et le long des lignes de chemin de fer. Mais au fur et à mesure, on fait des rencontres, et né mon premier crew de graffiti, c'est 98, hein, ça date, Décapé, voilà, avec Nilko qui est un artiste bien connu aussi, qui est issu de la région parisienne comme moi, on a grandi en banlieue sud, Et on a créé des capas ensemble en 98. Ça a été vraiment le début et on a commencé à faire du train, de la ligne de train, surtout des autoroutes. Moi, j'aimais bien faire les autoroutes, des autoroutes, des blocs. Et parallèlement à ça, je faisais des études d'art plastique. Voilà, je suis rentré à la Sorbonne en art plastique, donc rien à voir. À la Sorbonne, j'ai rencontré d'autres graffeurs, dont certains qui sont venus faire le mur ici à Épinal, comme 4, par exemple, qui est venu il n'y a pas si longtemps. J'en ai même formé, parce que j'étais enseignant un moment, et Opar, qui a fait le mur aussi, je l'ai formé. J'étais son prof d'art plastique au collège, pendant mes premières années où je n'étais pas encore artiste, on va dire, à temps plein. Et voilà, donc le graffiti, c'est venu avec le hip-hop, c'est ça, avec la culture hip-hop et tout ce que ça peut engendrer. Donc c'est, prends tout ce que tu peux prendre d'influence, hein, comme dans le rap, on sample, on récupère des boucles de groupes de funk, de soul, de tout ce que tu veux. En graffiti, j'ai adapté ça aussi. Moi, je m'intéressais à énormément de choses. Donc la culture punk et tout l'imaginaire qui va avec. Donc c'est les flyers, c'est les fanzines, c'est une esthétique très particulière qui m'a influencé. Parlant de chez moi, il y avait un des plus grands squats d'Europe où la scène alternative se produisait et où j'ai fait mes premiers concerts quand j'avais 14-15 ans. Donc ça, c'est une première influence. Le hip-hop, c'est venu après. On mélange tout ça avec les études d'art plastique à la Sorbonne et ça crée le style hybride que j'ai développé au fur et à mesure des années qui donne ce que je fais aujourd'hui.
C'est le DJ Mehdi du graphe, quoi.
C'est flatteur, j'irai pas jusque-là. C'est vrai que le reportage est magnifique et que je connais bien le DJ Mehdi pour sa carrière. Si on peut faire le parallèle, c'est très flatteur, je n'irai pas jusque-là.
Comme tu le dis, tu t'es perfectionné dans pas mal de choses dans cette culture-là. Tu sculptes aussi à côté de ça.
Exactement, ouais. Et ouais, mes études d'art plastique, c'était vraiment en plus la maîtrise et DEA d'art plastique, donc Bac plus 5, plus 4, plus 5. C'était plus tourné vers l'art numérique, la vidéo, des choses comme ça. Je faisais des montages de photos avec des techniques anciennes de vidéo, des zoétropes qui en fait sont des cylindres avec des ajournées où on développe des photos en fait et ça recrée le mouvement. Et donc je m'orientais sur des choses comme ça. Et donc la sculpture, c'était moi j'aime beaucoup la matière, j'aime bien travailler, je peux pas déléguer. Voilà, il y a une sculpture qui va être à Paris là prochainement dans la mairie du 13e arrondissement de Paris. Et je suis un des rares artistes qui est tout fait du début jusqu'à la fin, la sculpture, la soudure. J'aime bien mettre la main à la pâte. Voilà. Je ne dis pas que je m'interdis de faire des choses, comme les autres artistes font en atelier. Mais pour le coup, j'aime vraiment que si je peux ne pas déléguer, c'est vraiment ce qui me plaît. Voilà, c'est le rapport à la matière. Donc voilà, quand je dis j'ai fait du graffiti, j'aimais ce côté pictural et le fait de peindre, mais très rapidement, en fait, le fait de ne pas toucher le mur, de donner de la picturalité à un matériau qui en fait, est à distance du mur et qui ne vient pas toucher, il a fallu que je retourne à l'atelier, que je retourne au pinceau, à la matière. Voilà, donc je fais des marqueteries, je fais de la sculpture, effectivement, en acier. Et j'ai fait des bas-reliefs aussi avec de la mousse expansive, du bois. Enfin, j'expérimente plein de choses pour ne pas me donner de limites particulières. On va dire que plutôt la matière au service de mes intentions.
Alors le bas-relief, pour que nos auditeurs comprennent un petit peu mieux, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est une technique que j'ai développée justement, ce qui m'a fait connaître. Quand le graffiti, l'art urbain est arrivé dans les ventes aux enchères à Paris, il y a eu les premières ventes aux enchères, les premières galeries sont intéressées aux artistes issus de cette scène, eh bien je faisais des espèces de toiles, c'était comme dans une toile, soit de la toile vraiment tendue comme une toile classique qu'on achète dans un magasin Beaux-Arts, ou du contreplaqué, et des personnages qui sortaient de la toile. Je voulais que, moi qui suis un banlieusard, l'arrivée à Paris, il y a toujours une confrontation, je dirais pas culturelle, mais il y a un sentiment, pas d'infériorité, mais on dit on doit faire ses preuves quand on arrive à Paris, à la fac, ou même dans le milieu parisien. Et il y avait un peu ce fantasme de la banlieue pour les gens que je rencontre à Paris. J'ai fréquenté plein de gens de milieux différents. Et ce fantasme de la banlieue avec le stigmate de la cité. Et donc, c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Autour de la cité, il y a aussi des pavillons. Il y a des gens qui... Voilà, et puis même dans la cité, au sein de la cité, il y a des problèmes. Mais il y a énormément de choses positives qui se font. Et on va dire que c'est plus positif que négatif, globalement. Et donc, j'avais un peu cette envie de faire sortir mes personnages de la toile comme si on déboulait dans Paris ou dans les salons d'exposition. Et donc, quoi de mieux que de faire du bas-relief ? Et le bas-relief, en fait, c'est de l'accumulation de matière sur une toile pour créer des personnages qui sont en volume, en fait, tout simplement. Donc, il y avait des morceaux de corps qui sortaient de la toile. Soit ils tombaient, soit ils nous coursaient avec une pelle. Il y avait ce côté un petit peu... un petit peu violent. Et donc la première toile qui a ressurgi, en fait, qui m'a fait connaître, c'est, elle porte le nom d'ailleurs d'un des morceaux d'un groupe que DJ Mehdi a tu vois que la boucle est bouclée. Justice sortait son premier album. J'avais un premier galeriste en Angleterre qui m'exposait. Et quand j'ai montré cette toile, il m'a dit « Ah, cette toile me fait penser au clip ». Je crois que c'est Romain Gavras, c'est Stress, en fait, le clip de Justice, où c'est des gars de banlieue, en fait, qui cassent tout sur leur passage et qui déboulent dans Paris et qui continuent à casser, à frapper. Donc, c'est assez, assez violent. Et ils me disent, ta toile m'évoque ce clip. Et alors, la toile était faite avant le clip et il y avait pas de, j'avais pas d'influence particulière. Mais c'est deux choses qui se rejoignaient. Et donc, on a donné le nom de Stress à la toile, qui n'était pas le cas à la base. Je me rappelle même plus, d'ailleurs, le premier nom que j'avais donné à la toile.
Pour revenir à la peinture, comment est-ce que toi, tu définirais ton style ?
Alors, on parlait d'hybride tout à l'heure. Et donc, il y a l'influence du graffiti, c'est une chose. Il y a l'influence de mes études, c'en est une autre. Et puis, de tout ce que j'ai développé là précédemment dans l'interview. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse quand même, pour revenir à mes premiers amours, ce qu'on disait tout à l'heure, un des premiers artistes enfants, avec mes yeux d'enfant, qui m'a un peu subjugué, c'est Van Gogh. Et c'était en fait cette idée de retranscrire la réalité. Par la suite, il y en a eu plein d'autres, mais retranscrire la réalité avec une façon très singulière, une touche très libre, qui fait que voilà, on s'approprie la réalité d'une certaine façon. Et donc, je pense que mon envie de narration dans la peinture vient de là. Donc, je fais des grandes fresques qui sont assez narratives aussi, avec des personnages qui évoluent dans un monde voilà, que j'ai créé avec ce système de formes géométriques qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc, c'est très reconnaissable. Et il y a quelque chose qui est de créer une vision du monde que l'on ne connaît pas, donc une vision pré-rétinienne. Avant que la lumière ne touche notre rétine, les ondes circulent, on les voit, on ne les voit pas, et recréer l'univers. Et donc, c'est se décomposer le corps comme une anatomie du mouvement, un corps qui est fait continuellement de mouvements. Voilà. Donc, c'est travailler sur l'anatomie, travailler sur le mouvement du corps, et imaginer en fait un monde sans la rétine, où c'est que des ondes qui circulent et qui redessinent le corps, les éléments, la nature. Et c'est ce qui donne mon style un petit peu. Et Van Gogh, c'est vraiment voilà, Van Gogh ou Rembrandt, enfin des artistes qui, à chaque époque de l'histoire de l'art, ont apporté quelque chose parce qu'ils faisaient évoluer en fait, la touche et la façon de recréer le monde. Aujourd'hui, la figuration, ce n'est pas ce qui est toujours le plus en vogue dans les écoles d'art, ou en tout cas aux Beaux-Arts. Mais il y a un retour à la figuration parce que je pense qu'on n'a jamais fini de raconter des histoires. Et moi, mon attachement à la narration, à la figuration, c'est ça, c'est vouloir raconter des histoires, créer un contexte et avec toujours une intention derrière. Ouais.
J'ai lu les visages et les corps qu'il peint sont fragmentés, nervurés, cerclés de noir, nerveux à l'extrême pour capter les expressions les plus crues et souligner l'absurdité des comportements humains. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Oui, c'est quelque chose qui revient souvent quand on décrit mon travail. Alors, cerné de noir, c'est plus le cas parce que je trouvais que justement que ça enfermait trop la forme. En fait, l'important, c'est de la profondeur à l'image, rentrer dans l'image et s'y perdre un petit peu. Et effectivement, révéler l'absurdité du monde, c'est une chose, parce qu'on vit dans un monde absurde par essence. La vie, on a du mal à définir exactement ce qu'on fait ici, pourquoi. Et surtout, moi, ce qui me dit, c'est le côté vraiment négatif de la chose. Voilà, tout ce qui peut se passer, en fait, moi, je suis un peu une éponge, j'écoute la radio quand je travaille. Et moins de musique aujourd'hui parce que en fait j'aime bien me nourrir de ce que disent les gens, donc de la politique et tout. Et bon voilà, on est en absurdité totale quand on voilà là, on est à une époque là on a appris que Trump était réélu. Enfin voilà, c'est sans aller trop loin dans la politique, moi je suis sidéré que des gens en fait s'engouffrent dans des choses qui vont en fait à l'encontre de leur bien-être et de leurs intérêts. C'est-à-dire qu'on va vers des gens qui dominent le monde de façon hégémonique par l'argent, par le pouvoir et qui ont des envies complètement farfelues et exubérantes. Elon Musk par exemple. Voilà, au lieu de s'occuper de notre planète qui est un bijou, ben, ces gens-là en fait veulent aller sur des planètes qui sont inhabitables. Mais voilà, je pense que c'est un délire, un ego d'adolescent, et on est gouverné par des adolescents en fait, et ça me sidère de voir que les gens, en fait, s'engouffrent dans des logiques où, en fait, l'autorité va aller à leur rencontre. C'est-à-dire qu'on va restreindre nos libertés, il va y avoir de la violence physique, morale, de la souffrance, mais les gens répètent, l'histoire se répète continuellement. Et ça, en fait, c'est absurde, ça me sidère. Et je me dis, on n'apprend pas de nos erreurs. Donc ça nourrit énormément de mon travail. Et j'aime bien écouter, du coup, là, en vieillissant un peu, écouter les émissions qui nourrissent mon imaginaire et qui me permettent de recréer des scènes voilà, qui ne sont pas toujours évidentes à décrypter, mais j'aime bien.
Tu pars donc d'expressions qui sont exagérées.
Ouais, alors c'est plutôt des fois, j'aimais bien exacerber les sentiments, voilà, les sentiments, les émotions, et le fait de faire des personnages qui ressemblent un peu à des écorchés. Hein. Donc là, c'est plus mécanique, c'est plus géométrique, mais à la base, c'était des écorchés. Les premiers personnages que je faisais dans l'esprit, ce que tu disais tout à l'heure, c'était des écorchés comme des corps sans peau, et très coloré, justement. Je suivais les nervures de la peau, enfin enfin les nerfs et les muscles. Mmh. Et donc, c'est des corps sans peau. Donc, ça peut créer un petit malaise chez les gens qui regardent. Mais d'un autre côté, en fait, si on fait quelque chose de trop lisse, de trop figuratif, trop figuratif ou trop vu, en fait, on passe sur les images sans vraiment les regarder. Je préfère qu'il y ait une réaction de recul. Ah, c'est un petit peu dur ou un petit peu violent, mais un petit peu l'art, c'est fait pour ça, en fait. Si on fait une image lisse et sans intérêt, on en est abreuvé tellement toute la journée d'images que si on n'a pas une qui nous accroche à un moment, et même qu'on n'accrocherait pas chez soi, parce qu'on se dit « Ah ben, je ne mettrais pas ça au mur ». Mais ce n'est pas l'intérêt, l'art, ce n'est pas fait pour accrocher chez soi dans un premier temps, c'est fait pour créer de l'émotion chez les gens, qu'elle soit positive ou négative. Voilà. Après, les collectionneurs qui s'intéressent à mon travail ou à des travaux qui sont un peu plus compliqués ou un peu plus durs, c'est aussi parce qu'ils se nourrissent de ça. Et il y a de l'épaisseur, il y a de la profondeur dans les œuvres et ça nourrit l'imaginaire. Et on peut passer 10, 15, 20 fois devant et on continue à y voir des choses. Et c'est ça qui me plaît. Voilà. Et d'ailleurs, chez les artistes que je regarde aussi, c'est ça qui m'intéresse en premier lieu.
Qu'est-ce que tu veux faire ressentir justement aux personnes qui voient tes œuvres ?
Alors ça, c'est dur à exprimer. C'est-à-dire que moi, je fais en ressentant des choses. Il faut décoder un petit peu. Donc des fois, c'est intéressant d'entendre les gens parler sur son travail parce que ça vient le nourrir un petit peu. Ils voient des choses que nous, on n'a pas forcément vues. Et c'est plutôt positif. Même quand je fais un visage, des fois, il est tellement torturé que les gens ne voient pas les yeux, la bouche, le nez au même endroit. Et c'est très bien parce que ça me rappelle aussi une de mes faits marquants de ma jeunesse qui m'a amené un petit peu à l'art. C'est par exemple Vasarely. Chez mes grands-parents, il y avait une petite impression de Vasarely. En fait, j'ai toujours vu un visage en fait, de profil avec un gros nez. Voilà, c'était plutôt ocre rouge, hein, rouge un petit peu sali, avec des lignes blanches qui se déformaient à certains endroits. Et ça faisait comme comme des lignes qui sont parallèles et puis qui se déforment et qui forment un visage. Et en fait, ce n'était pas un visage, c'était un corps féminin, c'était un nu en fait. Et petit, je ne le voyais pas. Et je me dis, c'est génial en fait, parce que l'art, c'est ça. Nous, on apporte quelque chose à partir du moment que c'est dans l'espace public ou c'est à la vue des autres. Et ben, on ne maîtrise plus ce qui se passe vraiment. Donc même si moi, j'ai une histoire en tête, ce qui m'a permis de créer l'œuvre, l'histoire elle peut changer en cours de route et les gens se la réinterpréter. C'est un peu le cas de certains livres qui sont Nostradamus ou même les religions qui sont constamment réinterprétés en bien ou en mal, malheureusement souvent en mal, mais interpréter un texte, voilà, des fois une poésie, hein, vous lisez Rimbaud, Baudelaire, tout le monde n'y voit peut-être pas forcément la même chose et c'est intéressant de confronter justement ce que les experts ou en tout cas ceux qui vraiment sont penchés sur la question peuvent voir dans le texte et pas forcément voir toujours la même chose. Et en art, c'est pareil. Moi, j'ai une écriture comme un écrivain. Elle est singulière, tant mieux. Les gens s'en souviennent encore mieux et ils y voient ce qu'ils veulent aussi quelque part. Et s'ils veulent discuter, moi je suis là pour ça, et leur apporter des clés, mais c'est bien aussi qu'ils se fassent leur propre avis.
Concrètement, comment est-ce que tu réalises tes œuvres ?
Alors ça part de tout ce que j'entends, de ce que je regarde, de discussions avec des copains, ça part de plein de choses différentes. Je peux juste expliquer brièvement en fait, la construction d'un tableau que j'ai en tête, c'est un tableau qui s'appelle « Carousel ». Une grande toile peinte à l'huile et c'est en fait une association d'idées. Je partais du mythe de Sisyphe. Alors pour recontextualiser, Sisyphe, c'est la mythologie grecque, un personnage puni par les dieux qui doit remonter son rocher en haut d'une colline tous les jours. Voilà. Sauf que la roche retombe systématiquement le soir, donc tous les matins il répète. Donc c'est un peu une métaphore de l'existence humaine, où tous les jours on répète plus ou moins les mêmes tâches, certains plus que d'autres. Hein. Quand on travaille à la chaîne, voilà, on a du mal à s'imaginer à quel point ça peut être... abrutissant de travailler à la chaîne. Hein, les politiques ont du mal à s'imaginer ça et souvent omettent de le dire. Et donc Sisyphe, c'est un peu ça, ce truc où bah, en fait, c'est à la fois angoissant et rassurant. Et j'ai voulu créer une œuvre un peu comme ça. C'est angoissant de se dire qu'on répète constamment la même chose, mais c'est aussi rassurant en tant qu'être humain de se dire voilà, on répète quelque chose qui nous rassure, comme l'enfant, il a besoin d'avoir des rites dans la vie, on brosse les dents, on s'habille, on mange, enfin, ou non, plutôt on se brosse les dents après avoir mangé, et on va à l'école. Et donc c'est des rituels qui finalement nous confortent dans notre état d'esprit d'humain. Et donc j'ai associé cette idée du mythe de Sisyphe à un manège qui est quand même un loisir. Et j'avais été au musée des Arts Forains à Paris, où il y a le premier manège de l'histoire des Arts Forains. C'est des vélos qui sont soudés les uns aux autres, et donc il faut pédaler pour créer le mouvement. Et à l'époque, il n'y avait pas de voiture encore, c'est fin 18e, début 19e. Et donc, les gens devaient pédaler pour être enivrés par la vitesse. À l'époque, c'était 30 km/h, c'était énorme. On allait rarement à cette vitesse-là par avec des chevaux, et tout le monde n'avait pas un cheval. Et donc, ce manège... L'idée d'effort pour le loisir, ça m'a fait penser au bagne et une image que j'avais d'un film que j'ai regardé gamin avec Louis de Funès. Il s'appelle La folie des grandeurs et à la fin du film, il se retrouve au bagne avec Yves Montand et il pousse une crémaillère dans un désert. Et j'associe cette image à l'idée du manège et au personnage qui pousse. Voilà. Et donc est venue l'idée de cette toile où c'est un manège qui est suspendu dans une espèce de vide. Et des personnages qui poussent les barres du carrousel, donc le manège avec ses barres où sont accrochés les petits chevaux. Et chacun pousse à son rythme, parce que nous sommes des humains, on ne pousse pas tous de la même façon, on n'a pas tous le même mental. Et c'est ce qui recrée et ce qui redonne de l'humanité à cette scène qui en est dépourvue dans un premier temps, parce que c'est des personnages qui sont un petit peu écorchés, dans un univers flottant, il n'y a pas de repères géographiques ou architecturaux. Et je l'ai voulu ça justement pour déstabiliser le spectateur et créer cette espèce d'angoisse et qui en fait revient. La poésie du trait, de la construction de l'œuvre va redonner le côté humain de la chose et les personnages qui a priori s'entraident. Il y en a un qui est un peu porté par le système, ben voilà, comme dans la vie. Il y a des gens qui ont besoin à un moment dans leur vie d'être portés par le système et heureusement que ça existe, voilà, pour pas que tout le monde se retrouve à la rue... trop facilement, il y en a déjà assez comme ça, et des gens qui poussent plus fort, mais qui ont la force et l'envie de pousser plus fort pour les autres, pour aider les autres, c'est pas une tare. Aujourd'hui, on a l'impression que travailler un peu pour les autres et donner son temps pour les autres, c'est sale, c'est moche, et c'est de la cistana, et les autres, ils peuvent aller se faire voir, parce que on est très individualiste, on nous nourrit de ça, on nous abreuve de ça à longueur de temps avec la société de consommation, et non, en fait, c'est humain de dire qu'on va donner un petit coup de plus pour aider les autres, et c'est pas moche de faire ça, au contraire.
On se rencontre aujourd'hui, comme je l'ai dit en début d'émission, pour appréhender ce que tu vas réaliser sur le mur. Tu es ici pour 3 jours, quelles sont les différentes étapes pour réaliser cette œuvre ?
Eh bien, alors, il y a l'esquisse. Voilà ce que. Alors, 3 jours, c'est très court pour réaliser une œuvre sur mur. Donc, l'esquisse, là, je l'ai projetée pour gagner du temps. Si je la fais comme ce que je fais sur une toile, bah, ça me prend pas mal de temps. Donc, ça m'aurait pris une journée entière pour faire l'esquisse, pour vraiment caler les choses. Donc, là, on projette l'image ou on fait une mise au carreau, l'un ou l'autre. Là, on projette l'image, ça va encore plus vite que la mise au carreau. Et puis après, bah, moi, je monte au fur et à mesure mon image comme une peinture classique, avec on commence par les ombres, les couleurs les plus foncées, et puis on monte en couleurs au fur et à mesure jusqu'aux couleurs les plus claires. Je travaille essentiellement à la bombe. Il y a des endroits là sur la fresque, comme je fais beaucoup de détails, il y a des endroits qui nécessitent que j'ai un petit bout de carton qui évite de faire baver la bombe sur des zones qui sont déjà peintes et nickel, voilà, histoire de ne pas avoir à recommencer, pareil pour un gain de temps aussi. Et voilà, et donc l'image se montre au fur et à mesure comme ça, et a priori en 48 heures c'est fait.
Tu parles de temps ? Est-ce que c'est frustrant, cette limite de temps, ou est-ce que c'est plutôt motivant ?
Alors, le temps, c'est de l'argent. C'est frustrant. Ça, on retourne à la réalité. C'est un peu frustrant, parce que des fois, j'aimerais faire autre chose que, par exemple, un mur, une dimension de mur, c'est, voilà, si tu veux rentrer dans les délais, c'est un portrait, voilà, un visage, où là c'est un peu différent, je fais un loup, justement la polémique du loup, ça amène plein de choses dans l'imaginaire. Donc c'est un loup un peu très particulier, je vous engage à venir le voir, il va être là tout l'hiver. Et le vernissage, c'est vendredi soir, je ne sais pas quand on va diffuser l'émission, mais c'est vendredi 8, c'est ça, au soir, 8 novembre. Et oui, ça peut être frustrant, parce que des fois j'aimerais faire justement des scènes comme je fais sur mes toiles, pour vraiment montrer aux gens quelque chose d'un peu plus élaboré, un peu plus fouillé. Mais bon, la contrainte du mur fait que on ne peut pas, faire mieux ou autrement. C'est pas grave.
Comme tu le dis, le vernissage, c'est vendredi. La réalisation de ton œuvre va se faire aux yeux du grand public. Une expérience que tu as souvent dû rencontrer. Mais qu'est-ce que ça fait de créer ? Est-ce que ça apporte un truc en plus de créer devant les gens ?
Alors, devant les gens, ça amène... Personnellement, ça amène des choses, pas artistiquement, parce que justement, les gens nous interpellent, on discute, on va dire, on perd du temps sur le côté pragmatique, artistique, mais d'un autre côté, travailler dans la rue et travailler devant les gens, ça amène de l'échange, et c'est un petit peu le but de l'artiste, en fait, hein, je pense. Je pense pas que... Il y a des artistes qui sont très égoïstes, je veux garder mes œuvres, et encore, quand je dis égoïste, c'est au sens... pas négatif du terme, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas partager leur travail parce que trop intime, parce que pas assez de confiance en soi. Donc on garde les choses où il y en a qui ne veulent même pas du tout le donner, ils sont très fiers de ce qu'ils font, mais ils ne veulent pas le partager. Et là, en fait, moi, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est-à-dire que je crée aussi, comme quand on écrit une nouvelle ou un roman, on aime le faire lire aux gens pour leur raconter son histoire et avoir des retours. Et moi, j'aime bien avoir des retours aussi, discuter avec les gens. On ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Il y a des gens qui adorent. Et moi, je défends mon bout de beefsteak. Hein. Je défends mon travail. Et puis, j'aime bien expliquer pourquoi je fais ça. Et pourquoi, justement, ce que je disais tout à l'heure, des fois, c'est un petit peu plus dur à comprendre ou ça fait un peu peur ou c'est un peu angoissant. Mais d'un autre côté, c'est fait pour amener le dialogue et échanger avec les gens. De toute façon, la vie, c'est ça, hein. C'est partager du temps avec des gens. Et on est vachement... on nous écarte de ça, j'ai l'impression. Hein. Et dans le monde du travail, et dans le monde en dehors du travail, on essaye de séparer les gens au maximum. Mais ça, c'est à des buts, c'est des fins politiques, en fait, hein, de séparer les gens. On voit le résultat dans les urnes, après.
Question systématique que je pose aux artistes que je reçois et qui exposent. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de se mettre un petit peu à nu quand on expose ?
Ah c'est sûr qu'on est confronté à la critique. Et donc, faut avoir un minimum de confiance en soi pour dire, la critique, elle peut être bonne ou mauvaise, mais on avance. Puis moi, l'envie de peindre dans la rue, j'ai jamais eu, en fait, j'ai pas... Le graffiti, alors pour revenir au graffiti et peindre dans la rue, justement, à la base, c'est un jeu. C'est un jeu qui se fait de nuit sous anonymat. Et moi, ça m'allait très bien, ça. C'est-à-dire que pas être connu, prendre un nom d'emprunt, donc Chaka, qui faisait partie de mon imaginaire, le reggae, l'univers hip-hop, Chaka Zulu, l'Afrique du Sud. Voilà, ce nom vient de là. Et c'était très bien, en fait, ce côté. Voilà, on peint de nuit... à visage caché, sous un pseudonyme, et c'est très bien comme ça. Voilà, donc j'aurais pu rester comme ça longtemps, parce que c'est justement, ça permet de grandir, de faire des choses et de finir par les assumer. Quand on les assume, généralement, on reprend son vrai nom de famille et son vrai prénom pour dire, c'est moi, c'est bien moi. Voilà, je pense aussi en écriture, Romain Gary, qui a pris un nom d'emprunt, Émile Ajar, pour écrire un deuxième roman qui l'a apporté au succès également, comme quoi, c'était pas trompé. Mais voilà, c'est bien aussi des fois de finir par se confronter, malheureusement. Et tant pis pour la critique négative. Enfin, c'est pas ça qui me motive à la base. C'est pas le fait de... Je pense pas aux gens, parce qu'à la base, c'est un désir personnel et c'est une envie profonde de faire quelque chose et de lutter contre l'absurdité du monde, ce que je dis. Voilà, donner un sens à sa vie.
Merci à toi, Chaka, de nous avoir accordé ton temps pour clôturer cette émission. Sur quels réseaux sociaux est-ce qu'on pourra te retrouver ?
Principalement Instagram, un petit peu TikTok. Je mets quelques vidéos de temps en temps, mais je suis pas un... De toute façon, je travaille pas pour l'algorithme. Voilà. Donc, du coup, ça fait pas de moi un bon élève de l'algorithme. Je publie quand j'ai besoin de publier et je ne publie pas pour nourrir l'algorithme. Donc, vous me retrouvez, si vous cherchez, sur les réseaux sociaux, Instagram, C'est Marshall-Chaka Instagram, Chaka S-H-A-K-A, et Marshall, ça s'écrit à la française, M-A-R-C-H-A-L. Voilà, et sur TikTok, c'est le même pseudo.
Est-ce que tu as de nouveaux projets pour l'avenir ?
Eh bien, oui, alors je vais préparer une exposition personnelle pour un musée, c'est une première, un musée à Los Angeles qui me commande une exposition de 4 mois en 2026, donc 2025 est une année où je vais faire un peu de fresque aussi, là, pour le département où j'ai grandi et qui, bah, il m'aime bien. Dans son temps, il me commande des fresques, donc je vais en faire une, je pense, en 2025 à nouveau. Alors, pas pour le département, mais pour une commune, une agglomération, et préparer l'exposition pour Los Angeles, où je serai amené à me déplacer en 2026, voilà, de janvier à avril 2026. Et donc, pour moi, c'est une petite fierté. Voilà.
Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ?
Eh bien, de pouvoir continuer à faire mon travail et au maximum ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est vrai que des fois, on fait des compromis, on fait de l'alimentaire. Et si je peux continuer à travailler et à en vivre, voilà, et à pouvoir continuer à nourrir ma famille en faisant à peu près ce que je veux et vraiment me consacrer mon travail aux choses les plus essentielles. Voilà, donc les œuvres qui sortent de l'atelier, les choses les plus essentielles, où j'amène quelque chose de plus profond. Ouais.
Un petit mot de la fin ?
Eh bien, merci à vous déjà d'être venu jusqu'à moi et d'avoir proposé l'interview. C'est très gentil. Et puis, bonjour aux auditeurs qui nous écouteront.
Merci à toi. Merci auditrices, auditeurs d'avoir écouté cette émission. Elle sera rediffusée, podcastée très bientôt sur notre site internet et nos réseaux sociaux. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt. Thank you.